RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Vous savez que nous sommes ensemble jusqu'à midi. La première heure des GG est d'ores et déjà disponible sur l'appli RMC en podcast ou bien sur notre site internet rmc.fr. C'est la session de rattrapage. Vous avez peut-être quelque chose à faire de 9h à 10h. C'est compréhensible. Ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Mais les grandes gueules, vous les rattrapez en podcast. Je sais qu'on est pas mal écoutés dans les prisons. On évoquera ce qui s'est passé du côté de Fresnes. Une arnaque aux faux banquiers. En remontant leur enquête, les policiers se sont aperçus que finalement, c'était à la prison de la santé. C'était à la prison de la santé. Les détenus derrière leur cellule mettaient en place cette arnaque. Alors, on avait déjà ceux qui continuaient les trafics de drogue depuis la prison. Maintenant, c'est l'arnaque aux faux banquiers. Venez témoigner, peut-être vous, les surveillants de prison qui nous écoutaient tout à l'heure à 10h40 au 32-16. À 10h20, on parlera du CAPES de mathématiques qui est, paraît-il, du niveau des exercices de lycée. 32-16 pour en discuter avec les GG. En attendant, parlons grève.
RMC, les grandes gueules.
Appel à une journée de grève à la SNCF en Île-de-France le 21 mai. Là-dessus, vous avez les éboueurs de Paris qui menacent eux aussi de faire grève avec des préavis déposés. Est-ce que c'est l'abus de préavis de grève ? Parole de syndicaliste.
Mieux vaut qu'on négocie au mois de mai qu'au mois de juillet. Voilà. Donc il y a la volonté d'avancer, mais pour l'instant, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et aujourd'hui, les cheminotes et les cheminots ne s'y retrouvent pas en termes de compensation, et notamment les compensations financières.
C'est sûr que nous, on va l'utiliser comme base minimale. En tout cas, c'est comme ça que les collègues en discutent. Ils disent, bah oui, il faut à minima la même chose que ce que nos camarades de la RATP ont obtenu. Et ça fonctionne comme ça, en fait, dans le mouvement ouvrier. On essaie de s'inspirer de ce qu'il y a de meilleur chez l'un pour l'obtenir chez nous. Et ça, j'y ai ou pas, ça, c'est une démarche et une boussole qui reste toujours fixée sur le même cap.
On est roi de la France. SNCF. Il vibre, Bruno. Ouais, c'est une information de la rédaction d'RMC, ce préavis de grève sur une journée à la SNCF.
Ben, on pensait pourtant que les pré-retraites et autres avantages obtenus par les employés de la SNCF à l'approche des Jeux Olympiques avaient suffi à calmer les ardeurs de nos syndicalistes cheminotes. Ben, visiblement, non. Ils ont pourtant obtenu un contournement de la réforme des retraites très avantageux qui déplaît d'ailleurs à Bruno Le Maire. Il l'a fait savoir ce matin à Pauline de Malherbe. Il voudrait revoir tout ça. Il a convoqué Farandou. Donc là, les syndicats de cheminots appellent à une nouvelle journée de grève le 21 mai prochain en région parisienne. Ça va concerner les RER, les Transiliens, les trams, etc. Alors l'objectif, on l'a entendu, c'est d'obtenir ce qu'ont obtenu les agents de la RATP. La SNCF propose une indemnité de 50 euros bruts, soit environ 30 euros net les jours d'épreuve, indemnité journalière complétée par d'autres mesures concernant notamment la garde d'enfants. Eh bien, ce montant est inférieur à ce qu'ont obtenu les petits camarades de la RATP qui, eux, ont obtenu parfois des primes supérieures fixes à 100 euros. Donc, on est un peu dans la surenchère. Le gouvernement, de toute façon, cède à chaque fois parce que, en fait, le gouvernement n'a pas d'autres moyens de faire puisqu'il y a les JO à réussir. Donc, on peut pas se permettre d'avoir des mouvements de grève ce jour-là. Et donc, voilà, la SNCF, une fois de plus, remet un préavis de grève en action.
Bruno ?
Et déjà, vous devriez estimer heureux qu'il y ait un préavis parce que dans le privé, tu peux faire grève sur juste un appel à la grève. Oui. Donc, si t'es plus de deux sur la même revendication, tu peux faire grève. Nous, au moins, on fait des préavis, donc on prévient avant.
Merci.
C'est la loi. Voilà. Hein.
Dites-nous merci.
C'est la loi, pardon.
Non,
c'est le respect de la loi.
La loi, je viens de te l'expliquer juste avant, mais t'as pas entendu.
Non, la loi, c'est 48 heures avant, vous devez faire effectivement.
Non, c'est la loi d'hier. Mais quand je te parle de droit de grève, moi, je suis au fret. On n'a pas le même droit de grève que mes collègues du voyageur ou de réseau. Et donc, nous, c'est juste, il y a un appel à grève, tu peux faire grève comme ça. Sans prévenir.
Voilà. Vous venez d'obtenir tout à la SNCF.
Ah, tu parce qu'on part en retraite à 35 ans peut-être.
C'est pas ça. C'est,
ah oui, mais tout, c'est
vous,
ça.
Vous
moi,
avez
je vais
obtenu,
partir en retraite à 35 ans.
Vous avez rené.
Vous l'obtenir. Au final, vous allez l'obtenir.
À 35 ans, je voudrais bien. Putain, j'ai déjà fait 15 ans de rab.
Profitez des jeux.
Non, mais on ne sait pas qu'on a tout obtenu.
Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère ?
On reconnaît quand même que le dernier accord que vous avez signé est ultra favorable. D'ailleurs, Bruno Le Maire est en PLS, il est sous tente à oxygène, il fait venir en disant « on ne m'a pas prévenu, moi, le ministre de tutelle ». Il convoque d'ailleurs M. Farandou pour dire que ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que vous pouvez demander de plus ?
Mais non, mais là, tu vois bien, on est au mois de mai, là. Au mois de mai, nous, à la SNCF, on n'a toujours pas réglé le problème des JO. Parce que les JO, ceux qui sont un peu bas de plafond, ils doivent penser que les JO, c'est 15 jours. Mais en fait, les conditions de circulation des gens vont commencer à être péjorées à partir de fin juin. Jusqu'à jusqu'à certainement mi-septembre, voire même plus. Donc, et nous, nos patrons ont demandé aux gens de venir, de reporter leur congé, comme on a demandé, comme on a imposé à la police, comme on a imposé aussi à la RATP. Mais sauf qu'en contrepartie, on te dit, ben, ça sera 30 balles net par jour. Ben non, ça marche pas comme ça. Est-ce qu'un truc aurait dû être réglé? Mais certainement, ben, depuis déjà plusieurs mois, voire même plusieurs années, vu que les JO, tout le monde savait ça depuis des années, c'est toujours pas réglé. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Et nous, quand la boîte, les sons qu'on entend de la boîte, c'est dire, ben, c'est quand même pas mal 50 euros brut. Ben non, c'est pas bien. Donc, les gens qui sont concernés, ceux qui vont travailler sur Paris et qui, qui doivent reporter leur congé et tout, disent, ben non. Et ça vient pas de, c'est pas lancé en l'air. C'est juste de dire, ben voilà, ben nous, on veut un vrai levier dans la communication parce que, et dans les négociations parce que nos patrons, ils se foutent de notre gueule, en fait, là-dessus. Réellement.
Fred?
Moi, je rejoins Bruno à 300%. Pourquoi je le rejoins, c'est pas parce que je veux créer un front syndical ensemble.
On a des grévistes autour de la table.
Mais tout simplement, les choses n'avancent que, je le dirai tout le temps, demain et après-demain, que par le rapport de force. Oui. Et que si...
Aujourd'hui, il est en faveur des grévistes, forcément.
Mais, oui, mais voilà où il faut en arriver. On le savait... ces Jeux Olympiques sont attendus depuis des années. Eh oui. On attend la dernière minute et ensuite, comme d'habitude, on va dire bah, la SNCF, c'est des râleurs, la RATP, c'est des chieurs, ils veulent pas bosser et ils pourrissent nos Jeux Olympiques. Et on va toujours les désigner comme étant les responsables. Il y a un vrai problème de conditions de travail, il y a un problème de rémunération, il y a un problème où les personnels vont être mis sous tension. Ah. Bah, ça me paraît tout à fait normal qu'ils demandent des compensations monétaires dans une période qui est celle-ci. Donc je pense que là, et puis quand Bruno Le Maire, là, il est en PLS, ouais. Mais comme s'il savait pas, comme s'il venait de découvrir avec Apolline de Malherbe que...
Ouais.
Là, c'est...
Donc là, il a amusé la galerie ce matin.
Ouais, il arrive dans les studios, il se dit, ah bon, il y a un accord.
Tu crois que Farandou, il quelque chose sans que le maire ou que l'Élysée soit au courant, en fait, tout le monde nous dit que l'État, la SNCF appartient à l'État.
Bah, en tout cas, le ministre, il est sous la tutelle de Bercy.
Voilà, et donc ça veut dire que quand Farandou, il sait très bien avec qui il
vient de découvrir devant Apolline de Malherbe la situation.
En fait, ce que Bruno Le Maire découvre, c'est que ça fait beaucoup réagir dans la société française. Ah, ouais. Parce que, pardon, je suis désolé, les 64 ans, c'est pour tout le monde. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a des gens, parce qu'ils ont un pouvoir de nuisance, un pouvoir de blocage,
parce qu'ils obtiennent,
je termine, un contournement de la réforme des retraites, et tout d'un coup, cette réforme de retraite, c'est plus 64 ans, elle devient très avantageuse pour ceux qui obtiennent cet accord. Et donc, dans un pays où l'égalitarisme est très important, et j'imagine que Bruno Poncet, Frédéric Farah, vous êtes très attaché à cette notion d'égalité entre les citoyens, bah, il y a un sentiment d'injustice que
ça,
je pense.
L'année,
et notamment pour les gens du privé qui, en général,
ne
bénéficient pas de tous ces
avantages.
Et faire reculer la loi, t'aurais été bien content, toi, Olivier Truchot, qui n'avait pas fait une seule minute de grève dans toute ta vie, de repartir en retraite à 61 ans, 60 ans. Donc, à un moment donné, moi, j'entends bien. Mais quand t'as une grève qui touche tout le monde et que forcément, t'as toujours les mêmes dans la rue.
C'est vrai, je ne suis pas cheminot.
Et on était, mais c'est même pas ça.
Bah, faire grève tous les ans.
Mais par contre, tu pourrais pas habiter où t'habites et tu ne devrais surtout pas t'habiller comme t'habilles parce que cheminot, t'habillerais chez qui habille comme moi et t'aurais pas d'argent. Voilà, parce que nous, cheminot, on n'a pas d'argent. Mais non, mais vous faites rigoler. Les mecs qui font grève. Et à chaque fois, ils font grève pour tout le monde. Mais non, si nous, on avait eu la retraite à 55 ans, et que les dernières, ils avaient reculé en disant, ouais, la retraite à 60 ans, toi, t'aurais dit.
Tu sais très bien que cet accord est très généreux.
Je vais partir en retraite à 70 ans.
Tu sais très bien que cet accord est très généreux.
Mais moi, je pense qu'il faut aller vers le mieux 10 ans que le moins 10 ans, et ce qui s'est passé.
Ouais. Juste... uniquement pour les cheminots, là.
Non,
pour tout le monde.
Je voulais juste faire une petite remarque rapide. On remonte juste rapidement 30 ans en arrière pour une raison. Non, mais juste rapidement.
Et il va faire année par année en ce moment.
Non. Quand il y a eu. Non, mais quand il y a eu la réforme Balladur, tout le monde était à 37 ans et demi. Ensuite, la réforme Balladur arrive, on laisse le privé à 37 ans et demi, on monte le privé à 41 ans, et ensuite on dit
au cœur de l'été.
C'est affreux, c'est inégalitaire, etc.
Ouais, mais c'est Fillon qui nous a mis aussi pareil.
Mais en même temps, moi j'ai envie.
Il y a des pays au monde qui partent avec près de 37 ans de travail aujourd'hui.
Non mais attends, je termine. C'était un foutage de gueule parce qu'en fait il y avait une inégalité. La loi crée une inégalité. On dit les privilégiés du public. Mais non.
Barbara et puis on écoute Anthony au 32-16.
On sait que le privé n'a pas le pouvoir.
Vas-y Barbara.
Je n'aime pas qu'on dévoie les mots, comme vous le savez, et je n'aime pas quand Olivier transforme le droit de grève en pouvoir de nuisance. Non, j'aime pas ça. Le droit de grève n'est pas un pouvoir de nuisance. Le droit de grève est un droit constitutionnel. On s'est battu pendant un siècle et demi pour avoir ce droit de grève. Ce n'est pas un pouvoir de nuisance. Le droit de grève, tu l'utilises, il est fait pour forcer à un moment donné un dialogue que tu n'arrives pas à obtenir par des négociations cadrées dans le cadre du dialogue social.
C'est pas
mais
des...
dans le cadre du dialogue social de l'entreprise.
C'est pas comme ça que ça se passe.
Il peut y avoir des syndicats qui sont pas très favorables au dialogue social et des patrons qui sont pas très favorables au dialogue social. On va pas se mentir, la SNCF, ça a pas l'air d'être très fluide ni dans un sens ni dans l'autre. Néanmoins, le droit de grève reste un droit irrévocable et je n'accepte pas qu'on dise que c'est un pouvoir de nuisance. Si dans
c'est
les hôpitaux,
un pouvoir de nuisance.
Oui, mais si dans les hôpitaux ils pouvaient vraiment exercer leur droit de grève, peut-être que ils auraient des meilleures conditions de travail et que nous, les citoyens, on serait mieux soignés dans les hôpitaux.
Pourquoi ils y mettent des brassards alors?
Ils mettent des brassards parce que tu vas pas laisser les patients crever dans le couloir déjà.
Donc, ça s'appelle
en temps normal. En temps normal, tu peux crever dans le couloir de
tu
l'hôpital.
Tu peux laisser les gens sur les quais, ça c'est sûr, c'est pas un problème.
Non mais même nous, même nous à l'éducation nationale, on n'en abuse pas du droit de grève parce qu'on pourrait bloquer beaucoup plus qu'on ne bloque. Donc souvent, la SNCF, les cheminots de la SNCF. Réalise des droits de grève dans lesquels nous, par ailleurs, ou d'autres, dans le privé même, on peut se reconnaître en disant, au moins, ils obtiennent ce qu'ils veulent.
Nous,
mais pour moi, ça s'appelle
On devrait faire rentrer morte.
Ouais, ou quand tu te rappelles quand ils avaient dit qu'ils allaient pas corriger les copies du bac.
Les profs.
On aurait dit que la France allait s'effondrer. Excuse-moi.
Vous aviez pris
le bac
en otage, les
mais le bac Blanquer,
c'était. Mais si, bien sûr.
C'était un scandale. C'était la grève la plus scandaleuse des
Mais non, parce que le bac de Blanquer, c'était un scandale.
Non,
c'est ça que vous voulez pas voir.
Qui a passé l'année à réviser et parce que des profs,
non, parce que vous verrez que dans 10 ans.
Les professionnels avaient empêché ces bacheliers de passer.
Alors on va passer par le 32-16. On va
c'est
aller
toujours
à...
les mêmes. Hein.
Alors on va aller à Bondoufle. Quel département Bondoufle?
91
donc.
Essonne.
Bien joué Monsieur Poncet.
Bondoufle.
Bonjour Anthony.
Oui bonjour.
Boulanger donc à Bondoufle dans l'Essonne. Est-ce qu'il y a abus du préavis de grève?
Ça me rend fou. Quand j'écoute Monsieur Poncet déjà la semaine dernière, j'ai appelé, j'ai pas pu passer à l'antenne. J'aimerais juste qu'on me laisse passer parce que je sais que ça dure pas longtemps. Donc pour moi, il y a un abus énorme. Comme je dis, moi je suis fils de commerçant. Mon père m'a toujours dit, tout travail mérite salaire. À un moment donné, les gars, faut travailler. Les grèves, je suis d'accord avec certaines choses. Comme les infirmiers, ces choses-là, il n'y a pas de problème. Les agriculteurs, il n'y a pas de problème. La SNCF, les gars, arrêtez. Même si vous faites 2000 balles par mois, vous faites vos 35 heures, vous avez au moins 9 semaines de congés payés, vous avez des primes à tout va. Moi, je suis artisan boulanger, demain, je fais grève. Mon patron me dit, c'est bien. Il me dit, c'est bien, au bout de 48 heures, tu vas aller pointer au chômage. C'est comme ça que ça va se passer. Tu veux me mettre en arrêt, il va me dire, c'est pas grave. C'est la sécu qui va te payer, c'est le contribuable. À un moment donné, les gars, arrêtez. Mettez-vous au travail. Travaillez comme tout le monde. Vous avez la retraite plus tôt déjà. Eh, c'est bon. Vous êtes toujours en retard. Avant de faire une grève ou quoi que ce soit, de demander quoi que ce soit, comme on m'a toujours dit, quand tu veux demander une augmentation, il faut que ton travail soit nickel, que tu arrives à l'heure et que tout soit nickel. Chez la SNCF, rien n'est nickel. Et en plus, ils font des préavis de grève. À un moment donné, arrêtez les gars. Travaillez. Pour moi, vous êtes des tirs au flanc. Comme on dit, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, et je veux pas être vulgaire pour dire le reste.
Voilà, la crémière, vous la laissez de côté.
Voilà, je la laisse où je suis, je veux pas être vulgaire, mais à un moment donné, Monsieur Poncet, réfléchissez. Nous, on est la vraie France qui travaille. Moi, je me lève à 3h le matin, d'accord? Je termine à midi mon boulot, et après, je dois rentrer chez moi, je dois faire la popote, comme on dit, parce que le soir, j'ai ma femme qui arrive à 19h, je dois bien faire à manger pour ma femme.
Sinon, vous faites engueuler par votre femme?
Ah bah oui.
Je me ferai pas engueuler, mais je respecte ma femme, donc je fais aussi la popote et le ménage.
Alors, Anthony, attendez que Bruno vous réponde, alors. Bruno, tu peux répondre à Anthony Boulanger à Bondoufle.
Je connais, parce que moi aussi, je me lève des fois à 3h, et je finis à midi, et ça s'appelle les 3-8. Et Anthony, moi j'entends, après on peut toujours se plaindre des autres, mais en attendant, vous voyez des trains rouler tous les jours, ça veut dire que les cheminots travaillent, contrairement à ce que vous pouvez dire. Et parce que vous êtes boulanger, vous pensez qu'il y a que vous qui bossez sûrement, ça doit être ça en fait, mais en fait les cheminots travaillent, les trains roulent tous les jours de l'année, peu importe la journée, il n'y a pas un jour en France où il n'y a pas un train roule, sauf quand il y a une grève, et une vraie grève massive qui n'est plus le cas malheureusement. Donc à un moment donné, traiter les gens de feignants, moi, je trouve que c'est dommage parce que votre discours, il pourrait être entendable, mais à partir du moment où vous commencez à traiter les gens de feignants, parce que vous êtes boulanger, mais on a tous fait des métiers. Enfin, moi, on a même mes collègues qui gagnent pas 2000 euros, qui n'ont pas de 9 semaines de vacances, qui gagnent 1004 et qui ont 5 semaines de congés payés et qui ont des RTT comme la plupart des entreprises.
Beaucoup de cheminots qui gagnent 1004 par mois.
Entre 1004 et 1008, il y en a quand même pas mal, ouais, malheureusement. Ouais. Parce que chez nous, on a embauché, la grille de salaire est en train d'être évaluée, mais au début, on était embauché en dessous la dernière grille de valeur qui a été validée dans la convention collective, elle était juste en dessous le SMIC. Ils l'ont remonté 3 fois depuis 2 ans. Enfin bon, c'est comme ça. Oui, on peut discuter un peu technique si vous voulez. Mais en fait, moi j'entends, mais ça sert à rien de nous traiter de fainéants parce que les trains roulent tous les jours. Et si vous voulez, avant de penser que notre faute à nous, c'est qu'on fait arriver les trains en retard, ben non, parce que nous, on voudrait bien que les trains arrivent à l'heure, on voudrait bien que le train sera gratuit, mais c'est pas nous les patrons de notre boîte, contrairement à ce que vous pouvez penser. Hein.
Anthony, je vous remercie d'avoir dialogué avec Bruno.
Vous êtes plus à l'époque où il y a du charbon, vous appuyez sur des boutons, vous tournez, on le voit sur les
ton pain, tu le pétris pas à la main, t'as un pétrisseur, donc en fin de compte, tu devrais même plus exister. Avec une intelligence artificielle, ça marcherait peut-être mieux, le pain.
Tu veux venir porter les bacs,
tu crois que j'ai fait quoi dans ma vie? J'ai commencé à bosser, j'avais 18 ans dans des usines. Tu crois que j'ai fait quoi?
Bah, t'as eu de la chance, moi c'était à 15 ans.
Bah ouais, bah peut-être parce que tu
étais un peu de
temps, le pauvre. C'est pas quelqu'un qui est Germinal de Zola, peut-être.
Anthony, si on veut passer vous voir à Bondouf, comment s'appelle votre boulangerie?
Au Gourmandise de Verrières, mais c'est à Verrières-le-Buisson.
À Verrières-le-Buisson. Mon cher Anthony, dialogue avec Bruno Poncet. On va regarder la consultation. Nouveau préavis de grève à la SNCF. Est-ce que c'est abusé? A-B-U-S-E. Oui, 72%.
C'est mon année de naissance. C'est classe.
72?
Ouais, comme moi.
C'est une belle année.
C'était une belle année, 72.
Que de genoux.
Ouais,
t'as vu ça?
C'est magnifique. Hein.
Ça fait plaisir.
C'est dans un moment de grande émotion. Là.
Voilà. Et justement, dans un instant, on va parler du CAPES. Le CAPES de maths est-il... Alors, le CAPES de maths, normalement, c'est l'examen le plus élevé, quand même.
Il y a l'agrégation.
Le CAPES existe depuis 70.
Est-ce que le CAPES de maths est devenu trop facile aujourd'hui pour les profs? Est-ce qu'il est vraiment au niveau du lycée? Venez témoigner avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, discussion, débat avec Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, Frédéric Farah. On va parler avec vous, tiens, enseignants, c'est le moment de témoigner aussi au 32-16 avec nous du CAPES de mathématiques.
RMC, les grandes gueules.
Comme l'an dernier, le CAPES de maths qui permet d'enseigner au collège et au lycée essuie des rafales de critiques. Pourquoi? Et alors là, c'est public, c'est sur les réseaux sociaux de la part d'enseignants qui montrent les copies, qui les comparent aux copies d'il y a 20, 30 ou 40 ans en disant mais c'est du niveau des élèves auxquels on va enseigner. Alors oui. Vrai ou pas?
Il y a les témoignages notamment recueillis par le journal Le Point. Il y a par exemple Laura, qui est une ancienne professeure de mathématiques, qui a passé au crible la première épreuve écrite du CAPES 2024. Et elle dit, les premières questions, c'est du niveau collège. Et ensuite, elle regarde chaque question, elle dit, bah là, c'est du lycée, là, c'est niveau troisième, etc. C'est d'une facilité déconcertante. J'ai halluciné quand j'ai vu les sujets. En fait, il y a un abaissement de la valeur du diplôme, si j'ai bien compris, parce que la profession est devenue peu attractive. Visiblement, on cherche des profs de maths désespérément. Et quand on en a, enfin, des candidats, on donne quasiment le diplôme parce que comme ça, on s'assure d'avoir des profs pour la rentrée prochaine. Cet abaissement de la valeur des diplômes, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'inverser ou est-ce que ce sera difficile de revenir en arrière?
Barbara?
Il y a différentes choses. C'est vrai que le CAPES de maths, en 2023, on est sur 793 candidats reçus pour 1040 postes à pourvoir. Donc vous voyez bien que forcément, le niveau d'admission va baisser. Il était à 8 sur 20. Voilà. Je rappelle quand même que c'est encore pire pour les professeurs des écoles. Et ça, c'est encore plus inquiétant. Parce que aujourd'hui, dans les académies les plus gourmandes en enseignants, c'est-à-dire Créteil, Versailles, on peut par certaines années être sur du 4 sur 20 de niveau d'admission. Donc vous avez des élèves, c'est pour ça que moi, le nombre de gens qui viennent me dire l'instit de ma fille fait des fautes d'orthographe, bah oui, ou l'instit de mon fils fait des erreurs dans les calculs au tableau et se sert de la calculette parce qu'il n'arrive même pas à calculer, bah oui, puisque on a fait baisser le niveau du diplôme, pas du concours, parce que on n'arrive pas à recruter. Donc le vrai centre du problème, avec Frédéric, mais ça serait trop compliqué à vous expliquer pourquoi la réforme de la masterisation a été aussi un des facteurs qui a fait reculer le nombre de candidats, parce que vous avez des étudiants qui se sentaient pas d'aller jusqu'au bac plus 5, alors qu'avant il fallait un bac plus 3 et une grosse formation de terrain. Donc la formation pose problème, mais c'est surtout l'attractivité du métier. Quand on entend aujourd'hui ce qui se passe dans les écoles, il y a des gens qui nous ont accusés d'ailleurs de dire « oui, vous parlez trop mal de l'école, vous rendez pas le métier attractif ». Souvent, c'est ce que nous reproche l'institution. Oui, mais sauf que il faut pas mentir aux gens. Il faut pas mentir aux parents. Faut pas mentir aux élèves et faut pas non plus mentir aux futurs profs de leur dire venez vers le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde et ça je n'en disconviendrai jamais. C'est un métier absolument fabuleux, mais les conditions dans lesquelles on travaille, et je parle même pas du salaire, mais c'est au-delà même du salaire. Le salaire c'est déjà pas terrible, mais les conditions, le mépris à la fois oui. de la part de la société et de notre institution, ne nous étonnons donc pas que le niveau des concours soit entre guillemets, obligé de baisser mais, pour recruter, et on n'arrive oui, déjà même pas à recruter.
La question, c'est aujourd'hui quel est l'intérêt de devenir prof de maths. Je pose la question de façon
c'est passionnant, brutale. Prof de maths.
Je pose la question un peu
c'est
brutale,
passionnant,
mais,
prof de maths. Donc,
Frédéric.
Alors, je vais répondre à ta question. Je regardais sur le site très intéressant du Café Pédagogique qui expliquait que, par exemple, pour les concours du primaire, dans certaines académies, le niveau d'admissibilité est à 6 ou 7 sur 20, et dans d'autres, il est proche de 14-15. Bon.
Ouais. Donc, en 2014, il était à 4 sur 20 voilà. à Créteil. C'était 2014.
Aujourd'hui, c'est évident qu'on peut se poser la question, quel est l'intérêt, on peut faire ça pour tout, hein. Quel est l'intérêt d'être prof de maths, quel est l'intérêt,
d'être prof de philo.
D'être prof de philo.
D'être
prof de
cheminot.
De prof de
cheminot, on voit les intérêts.
Il n'y a pas d'intérêt.
C'est évident qu'aujourd'hui, cet intérêt se dissipe de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les conditions d'exercice de ce métier, Barbara l'a très bien dit, deviennent dramatiques. La politique, même du gouvernement, pour revaloriser le PAC, les primes, tout ça, ça ne marche pas. En plus, il y a une revalorisation début de carrière, milieu, fin, il n'y a pas. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question. C'est-à-dire, la société regarde les professeurs toujours avec un angle critique. Ils foutent rien, ils sont toujours en grève.
J'ai l'impression que c'est moins vrai. C'est moins vrai.
Mais on l'entend. Ouais. On a les parents sur le dos qui sont absolument surprésents et étouffants par certains côtés. C'est vrai que ce métier a perdu complètement l'attractivité. Et comme aujourd'hui, évidemment, ce métier n'intéresse plus, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir de plus en plus des arrière-bandes d'amphi qui vont faire ce métier. Hein, parce que les gens voudront plus faire ça, parce que les conditions sont pas là. Et puis tant que le gouvernement va continuer que ce celui-là ou celui d'avant de faire des réformes de caporalisation permanente, c'est-à-dire la réforme Blanquer a été pour moi le truc le plus dingue qu'on ait jamais vu. Ça a été mis en marche au forceps pendant le Covid sans aucune concertation.
Et au début, c'était en plus au détriment des maths. Il a fallu que non seulement les profs hurlent, mais que enfin les parents d'élèves se rendent compte que pour leurs gamins, c'était la catastrophe.
On supprimait les maths.
Mais combien de temps ça a pris ? Il y a eu 2 ou 3 années de sacrifiés. Il a fallu que les élèves eux-mêmes l'éprouvent et que les parents se disent mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ? Alors que ça faisait des mois et des mois que les profs alertaient, disaient mais comment on peut faire ça ?
C'est pas depuis Blanquer.
Enlever les maths dès la seconde.
Non, c'était aberrant. Que le métier de prof est valorisé.
Mais non, mais la question que tu te poses, c'est comment un ministre comme Monsieur Blanquer, qui est un ministre sérieux, qui connaît la maison, comment il a pu se laisser convaincre par des rapports à la noix de gens qui sont des profs d'accord. d'université qui comprennent rien au terrain, qu'il fallait enlever les maths en seconde.
Non, mais on est d'accord.
Les maths,
Barbara.
C'est l'avenir.
Non, mais d'accord.
Si t'es une puissance, si tu veux être une grande puissance économique et que t'as pas des bons matheux, Cédric Villani, il vous l'expliquera. C'est la catastrophe.
D'accord, très bien. Mais ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu conjoncturel. Mais au sein même de la société, aujourd'hui, le professeur n'a plus la place qu'il avait auparavant, comme le médecin d'ailleurs.
Ça, d'accord. Donc,
tous les métiers à vocation sont dans cette situation.
Bah, voilà.
Les métiers d'utilité sociale et d'utilité publique sont dévalorisés.
Donc, aujourd'hui, comment revaloriser pour que un jeune se dise tiens, prof de maths,
C'est terrible.
C'est un métier où je serais respecté, où je serais bien payé.
Mais c'est terrible. Parce que le professeur, c'est lui qui transmet le savoir.
Oui.
C'est lui qui te prend, qui t'élève, qui détecte chez toi aussi si t'es un bon. À l'époque, ça nous faisait rigoler, la génération, c'est soi-disant, tu sais, t'avais le fort en maths. D'ailleurs, c'était assez rigolo. Sauf que dans une société qui va être de plus en plus confrontée en plus à l'intelligence artificielle, qui va être de plus en plus confrontée aux besoins du numérique, on va avoir de plus en plus besoin justement d'avoir cet esprit logique et
tout
cet esprit. Moi, j'étais pas matheux. J'ai toujours buté moi sur les exercices de mathématiques, etc. Mais tu vas avoir de plus en plus besoin d'avoir des professeurs qui vont te prendre, qui vont t'initier, qui vont t'aider. Donc là,
Mais en plus, je vais te dire.
C'est inquiétant, ça.
C'est très inquiétant.
Ce qui est doublement inquiétant. C'est que pour ne pas justement être victime de la machine, pour ne pas demain devenir les esclaves de l'intelligence artificielle, il faudra être non seulement très bon en maths, mais il faudra être aussi faire de la philo, avoir une capacité à penser à ce que c'est l'éthique, à se positionner. Donc il va falloir former des gens qui vont avoir des bonnes capacités d'élaboration logique et des très bons niveaux de mathématiques pour précisément ne pas être les esclaves des machines. La France des robots de Bernanos, excusez-moi, c'est l'après-guerre,
la
il a écrit ça.
Aussi va permettre aussi un apprentissage.
Mais justement, si on veut pas se faire bouffer par les machines, et je trouve ça fou que nos gouvernants, et quel qu'il soit, hein, droite, gauche, ça je m'en fous, c'est pas la question, ne prennent pas la mesure de la nécessité aujourd'hui de redonner ces lettres de noblesse à des disciplines comme les mathématiques, et je parle vraiment des mathématiques, c'est-à-dire de la logique démonstration mathématique. Et c'est ça qui manque aussi dans les concours.
Mais on ne reviendra pas en arrière, et c'est la destruction. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire on a démantelé un système qui était quand même plutôt bon, et aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. Et les grands perdants sont les générations présentes et futures. Voilà.
Bruno Poncet, t'étais bon en maths, Bruno ?
Ouais, enfin, jusqu'à temps qu'on manquille de la géométrie. Là, ça commence à me saouler.
8 facettes
56.
Là, c'est nul. Et moi, c'est une nulle en maths absolue qui vous parle. Hein. Moi, j'ai fait un bac A2, j'ai eu 5 sur 20 au bac. Hein.
Moi, j'ai eu un parce
que je sais que c'est important les maths.
C'était le bac des filles.
Tout à fait. J'avais un garçon dans mes classes.
Parce que les filles devaient être bonnes en français les mecs.
Ça, c'est fini.
Vous avez raté le carnet notes de Bruno Poncet. Ouais. Tu as eu combien?
Alors moi, j'ai fait un bac 1. Parce que j'ai fait un bac B, mais après, j'étais viré, donc j'étais dans le privé. Et en fait, j'ai fait un bac 1. Et bac 1, c'était 5 en philo, 5 en français, les coefs. Sauf que c'était 4 en maths. Ouais, et moi, en maths, j'étais une bille. En bille, parce que c'était les fonctions et j'écoutais plus. Moi, j'ai arrêté d'écouter en maths en 3e, ça me saoulait. Et en fait, j'ai eu 1 en maths. Donc j'avais au rattrapage, je n'ai pas choisi maths, alors que j'aurais pu rattraper, parce que même avec 4, j'avais mon bac en fait. J'ai pas pris maths, j'ai pris philo et histoire géo parce que en maths, je savais que j'aurais peut-être même pas eu 2 en fait.
Tu sais qu'aujourd'hui, tu serais à la place de Jean-Pierre Farandou. Hein.
Non, je suis à la place de Bruno Le Maire, parce qu'il s'est pas compté, on a bien vu ce qu'il faisait avec l'économie française.
Oui, exactement.
Mais moi j'ai raté ma mention très bien au bac à cause de mon 5 sur 20 en maths. Et pourtant en A2, c'était pas beaucoup de coef. Oui. J'ai raté à cause des maths et de l'EPS. Mais malgré ça, aujourd'hui, je le dis, même ma fille, je la pousse énormément sur les maths. Oui, les maths elle est bonne dans tout, mais c'est les maths, je lui dis, faut carburer en maths.
Bah, surtout qu'on
et son père, il la lâche pas sur les maths.
Mais oui.
Oui. Et qu'on
a besoin de scientifiques.
Nous sommes avec Yann.
De femmes scientifiques.
Yann qui nous appelle du Gard. Bonjour Yann.
Bonjour les DGG, ça va?
Oui, ça va Yann. Artisan boucher, fidèle des GG. Comment vous avez réagi alors en entendant que le CAPES était au niveau du lycée alors?
Ah ben très mal, mais de toute façon, ça fait plusieurs fois déjà que vous en parlez sur dans vos émissions. Mais c'est moi ce qui me met le plus en colère, c'est que bon là c'est le CAPES de maths, mais c'est tout qui est tiré vers le bas. Et comme dit Barbara, les maths c'est l'avenir pour tout. Quand on parle d'intelligence artificielle et tout ça, on va avoir besoin de développer ça. Mais avant, je pense qu'il faudrait déjà supprimer la connerie naturelle, quoi, parce que c'est...
C'est un vaste travail.
Chez qui?
Ah oui, mais
qui c'est qui a trouvé le vaccin?
Ah ben ça, on ne sait pas, ça. Ça, ils ont été vite, par contre.
Yann, vous étiez bon en maths, vous, ou pas?
Pas mauvais, mais quand je suis sorti de 3e, comme je disais tout à l'heure à votre
Bruno,
à votre standardiste, oui, ouais. Quand je suis sorti de 3e, je connaissais mes tables de multiplication. Ouais, moi, maintenant, je prends un apprenti, mais c'est un carnaval, quoi. C'est un carnaval où il faut tout le temps une calculatrice à la main pour peser.
Oui, il faut dire que la calculette a remplacé le calcul mental.
Moi, j'ai été fou. Hein, j'ai mon fils le plus âgé à 28 ans. Donc, quand il était en CM1, CM2, ça remonte déjà à presque 20 ans maintenant, il fallait déjà la calculatrice et tout ça, mais j'ai pris des colères mais phénoménales à cause de ça. Ils savent plus rien faire, les gamins.
Mais vous savez, Yann, il n'y a pas de secret non plus. En 30 ans, le volume horaire d'enseignement des maths a fondu de 25%. Quand vous faites reculer les mathématiques pour faire d'autres disciplines qui, à mon sens, je suis désolée, de toute façon, le temps scolaire est mal organisé. Mais qu'est-ce qui se passe dans les écoles privées? Dans les écoles privées, les élèves peuvent faire jusqu'à 2 heures de maths de plus par semaine parce qu'ils disposent comme ils veulent de la DHG. Donc vous avez...
Faut expliquer ce que c'est que la DHG.
La dotation horaire globale. Dans certains collèges privés, par exemple, en 6e, ils ne vont pas faire sciences, par exemple. Et ils ne vont pas faire techno. Les heures de sciences et techno, elles sont converties en heures de maths. C'est-à-dire qu'ils vont faire 2 heures de maths en plus. C'est-à-dire qu'ils vont commencer juste en 5e un peu de sciences. Et la vraie SVT sciences physiques, ça va être 4e, 3e. Alors que nous, dans le public, on est obligé de coller les heures de techno, de sciences nat, de sciences physiques. Le principal du collège, il ne peut pas prendre ces heures-là pour les donner aux profs de maths.
La science nat.
Oui, mais c'est plus important. C'est plus important de renforcer les mathématiques. Moi, je peux te dire, je le dis honnêtement, ma fille a été dans le privé en partie au collège. Maintenant, elle est dans le public. Son niveau de mathématiques là, en troisième, il est
énorme. Donc on va créer un système à deux vitesses.
Parce qu'elle était dans un collège. Elle était dans un collège privé où elle avait 2 heures de français de plus et 2 heures de maths de plus par semaine.
Yann était un peu affligé. Yann, reste avec nous pour écouter Mélissa qui nous appelle du Var et qui est étudiante en lettres. Bonjour Mélissa.
Bonjour les grandes gueules.
Vous voulez réagir pourquoi Mélissa, dites-nous alors.
Parce que moi je suis étudiante en lettres et pas en maths, mais du coup je vois la même chose dans ma filière. C'est-à-dire que moi, j'ai repris mes études, j'ai passé mon bac en 2012 et donc j'ai fait des études en lettres bac plus 3 2012 jusqu'à 2014 et j'ai repris mes études là cette année.
Ouais.
Et j'ai vu le niveau, mais alors moi qui étais une étudiante moyenne plus il y a 10 ans, là je me retrouve avec 18 de moyenne avec des copains qui en CAPES, master de lettres ne font pas la différence entre un dialogue et un monologue. Donc
Et comment vous l'expliquez ça?
Je sais pas. Alors moi, apparemment, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu le bac pendant le Covid, donc un bac un peu donné aussi, et une complaisance des enseignants, mais que je ne comprends pas. C'est-à-dire
donc en fait, on abaisse la valeur des diplômes.
Complaisance des enseignants, c'est ce qu'elle dit, Mélissa. Voilà.
Quand je vois des copains qui, sans vouloir être méchante, mais qui font pas la différence pendant un oral entre un dialogue et un monologue, et que le prof lui met 11 à l'oral, ben moi il y a 10 ans, et puis c'était pas il y a 40 ans, mais il y a 10 ans en 2012, mon prof m'aurait mis 2, quoi. Et puis voilà. Mais là, ouais, je comprends pas. Il y a aussi la masterisation de Blanquer qui a baissé le niveau. Moi, je parlais avec de mes professeurs qui nous expliquaient qu'en bac plus 5, passer le concours, passer un mémoire, être stagiaire au collège, être même pas payé un SMIC, tout le monde a baissé les bras, les étudiants, les profs,
C'est normal.
Oui. Mélissa, je vous remercie de ce témoignage. Vous voulez faire quoi dans la vie plus tard, Mélissa?
Moi, je veux être prof de lettres.
Allez-y, parce qu'on a besoin de gens qui connaissent la différence entre un monologue et un dialogue. Et ça va nous aider.
J'espère que le niveau sera un peu plus élevé parce que si c'est juste ça, c'est juste.
Vous aurez 22 sur 20 au CAPES.
Mais elle a raison, Mélissa. Un master 2 aujourd'hui, ça vaut une licence dans les années 90.
Mais Mélissa, c'est bien, 31 ans, vous avez la foi gardée là, vous êtes encouragée par nos deux enseignants.
Complètement.
Barbara et Fred. Et si vous avez besoin de petits tuyaux, de cours supplémentaires, de cours du soir, Mélissa, Fred et Barbara, vous êtes
On est là.
Les GG toujours là pour vous, Mélissa.
Exactement. Même si Macron le veut pas.
Ils vous feront 10% sur les cours.
Oui, gratosement.
Gratos.
On a gagné tellement de sous.
On a posé la question. CAPES de maths, merci Mélissa. CAPES de maths, trop facile, diplôme donné. Est-ce que les diplômes ont encore de la valeur? Non pour vous à 85%. En revanche, on avait des forts en maths à la cellule de Fresnes et de la santé, parce que ce sont
des petits malins.
Ouais, c'est des petits malins qui ont
le CAPES facilement.
Et puis des bons en téléphonie mobile, en informatique aussi, tu vois. Et parce que de leur cellule de la prison de la santé et de la prison de Fresnes, ils arrivaient à mettre en place une arnaque aux faux banquiers. Alors on avait déjà ceux qui continuent leur trafic de drogue depuis la prison. Là maintenant, ils mettent des arnaques en tout genre. Décidément, la prison, c'est vraiment tranquille. 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui nos deux enseignants, Frédéric Farah, il enseigne l'économie, Barbara Lefebvre, l'histoire en géographie, et puis notre master en grève aussi,
doctorant même.
Bruno Poncé, cheminot et syndicaliste. On va parler de ce qui se passe en prison.
RMC, les grandes gueules.
Ce sont deux hommes qui sont soupçonnés d'avoir pris part à une grande arnaque et en se faisant passer pour des banquiers, qui ont été interpellés. Sauf que quand ils se sont fait interpeller, il y en a un qui était à la santé et l'autre qui était à Fresnes.
Oui, ils ont 20, 24, 26 ans et les trois bonhommes participaient à une escroquerie qui est visiblement très répandue, qui s'appelle Au Halo. En fait, on se fait passer pour des employés de banque et pour des policiers. Comment ça marche? En fait, on appelle en général ces personnes âgées qui sont piégées. Hein. Donc la première escroquerie, on appelle une personne de 76 ans, là, c'est une ressortissante suédoise. L'homme se présente comme étant son banquier. Ce dernier l'informe qu'elle a été victime d'une fraude sur ses comptes bancaires après un achat effectué sur Internet. Bon, très bien. Quelques minutes plus tard, un deuxième homme appelle. Là, il se fait passer pour un policier. Il lui confirme l'arnaque dont elle vient d'être victime. il commence à questionner cette personne sur ses comptes. Et puis il y a un troisième appel, c'est le donc le troisième complice qui lui se fait passer pour un autre conseiller bancaire et qui réussit à convaincre la victime de lui fournir ses codes d'accès de son portail client pour qu'il puisse régler la question. Et puis voilà, donc forcément, une fois qu'ils ont récupéré les codes, etc., elle se fait complètement arnaquer et ses comptes sont vidés. Donc il y a trois personnes qui participaient à ça. Il y en a qui étaient à Fresnes, d'autres à
la santé.
Et ouais, les trois faisaient ça grâce à leur portable, depuis leur cellule. Et donc les policiers ont remonté l'arnaque et ils ont été quand même assez surpris de s'apercevoir qu'il s'agissait de trois détenus. Et ça confirme un peu ce que disaient les magistrats marseillais à propos notamment de la prison des Beumettes et des trafics des drogues. C'est qu'on met des trafiquants de drogue en prison, mais ça ne change pas grand-chose dans leur business parce qu'ils continuent depuis leur cellule grâce notamment au portable.
Déjà, je pense qu'ils ont des complices à l'extérieur. Parce que tu peux pas faire tout ça sans les complices à l'extérieur. Qui participent à l'arnaque aussi derrière.
Donc, il y en a qui viennent, ils appellent les complices, qui viennent sonner chez la dame en disant « Bonjour, vous avez été prévenu par votre banque ?» Alors toi, t'es là, tu dis « Oui, j'ai été prévenu par ma banque. »
N'importe
quoi. Et l'arnaque continue.
Comme si le banquier, il allait faire avec ça à faire, avec toutes les arnaques, de sonner à la porte. Mais non, déjà ça. Donc, il y a beaucoup de conseillers d'aide extérieure. Mais surtout, je ne comprends pas. Je croyais qu'il y avait des brouilleurs à téléphone dans les prisons. Alors ça, je ne comprends pas. Il n'y a pas de brouilleur de téléphonie.
Donc, qu'est-ce que c'est ce truc? Parce que quand tu mets des brouilleurs, tu brouilles tous les portables et notamment ceux des surveillants pénitentiaires.
Surveillants pénitentiaires, ils peuvent avoir autre chose que des portables. Ils peuvent avoir des talkie-walkie qui peuvent être différenciés du circuit de réseau Wi-Fi. Enfin,
non mais attends, le truc, je ne comprends pas. Donc, en fait, parce que juste que j'essaie de comprendre. Donc en gros, ils ont un forfait.
Chacun son portable.
Ils ont chacun leur portable.
Mais je rappelle que Madame Belloubet, quand elle était garde des Sceaux, elle avait acté le fait que de toute manière, ils n'arrivaient pas à lutter contre la prolifération des portables en prison et que donc finalement, il fallait autoriser, alors peut-être avec des forfaits limités, etc., mais il fallait mieux contrôler, donner des portables et contrôler plutôt que de faire
la même Madame Belloubet qui avait ouvert les cellules pendant le Covid pour laisser s'égayer tout ce petit monde.
Donc en fait, en gros, à la fin du mois, sur leur compte banque, en compte bancaire, tout naturellement, ils ont un prélèvement.
Non, c'est souvent du prépayé.
Oui, c'est souvent du prépayé.
Oui, et puis il y en a certains aussi qui arrivent à passer de manière illicite auprès des détenus. Hein.
Donc en gros, initialement, c'est interdit d'avoir un portable.
Donc le gouvernement a abandonné, donc il a accepté que tous les détenus.
Il y a un état de fait en fait.
Ce qui est dingue, c'est que quand on entend parler de la prison, t'as l'impression que c'est dans le film des Affranchis quand ils vont en tôle, que les mecs ils continuent à faire leur bouffe entre Italiens, qu'ils vivent leur vie tranquille, tu sais. C'est peut-être dans le film des Affranchis, c'est ça. C'est que les mecs, ils sont peut-être même plus heureux dans une prison qu'à l'extérieur.
Rappelle-toi du film Le Prophète de Audiard.
Je te rappelle qu'on a des détenus qui font des, excuse-moi, Bruno, mais qui font des vidéos TikTok, qui postent sur les réseaux sociaux. On se souvient de l'été dernier de détenus qui, hors la porte de leur cellule, avaient mis des petites tables, tapaient le carton, faisaient même un barbecue. Ça avait été envoyé sur les réseaux sociaux. Il y en a qui avaient des piscines gonflables, parce que comme il fait chaud, ça permet de se rafraîchir un peu. Donc ça, c'est une réalité. Je ne dis pas que c'est le club, mais dans quelle mesure
on ne laisse pas aussi ces petites libertés qui sont certes contraires au règlement, mais on achète aussi entre guillemets la paix sociale au sein de la prison.
Un taux d'incarcération qui est à 120%, 125% dans les cellules.
Non, mais la piscine gonflable, le portable, non.
Faut quand même pas oublier, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on parle évidemment toujours, on parle toujours des trucs qui vont mal.
Les escrocs.
Voilà, mais c'est quand même fou parce que dans les prisons, tout le monde sait que les conditions certainement de détention en prison française, dans beaucoup de prisons, elles sont mais horribles. C'est-à-dire que les mecs qui vivent à je sais pas combien dans des pioules de 4, ils sont 8, 10, 12, ils dorment par terre. Enfin c'est un truc.
Là, on parle pas de ça.
Et d'un autre côté, t'as des mecs quand même. Enfin, moi, je suis désolé et j'espère qu'il y a un maton qui va appeler. Mais à partir du moment que. Je crois pas que quand tu. À moins qu'ils soient pas assez nombreux dans leur prison pour savoir ce qui se passe dans leur prison, mais je pense qu'à un moment, tu dois savoir ce qui se passe dans ton carré. Et dans ton carré, tu sais très bien que le mec, il a son téléphone, il peut faire des trucs. Enfin. J'ai pas de côté en zonzon, il m'expliquait qu'il y a des fouilles tout le temps, et tu jettes tout par terre, et puis regarde tout ce que t'as sur toi, quoi.
Maintenant, quelle est la communication de la direction de la prison de la santé? Quelle est la communication de la direction de la prison de Fresnes? Parce que ce qu'on attend aussi, c'est que le direction de la prison s'exprime. Moi, je suis pas pour qu'on mette ça sur le dos des gardiens, parce qu'ils sont épuisés par ce travail. Ils ont un mal à recruter. C'est vraiment un métier, mais ingrat au possible.
Donc, ils laissent faire.
Ben, je crois qu'ils sont épuisés, mais comme, comme certains enseignants peuvent laisser faire, comme certains policiers oui, dans certains quartiers, quand t'as arrêté quatre fois le dealer, quatre fois il ressort, la cinquième, tu te dis, bon, allez, on va en prendre un autre parce que celui-là, de toute façon, il ressort. Les matons, c'est pareil. À un moment donné, ils doivent en avoir ras-le-bol de certains détenus. Et puis, ils doivent penser aussi, bon, après tout, eux, ils font que de l'arnaque au téléphone. Alors, ils préfèrent peut-être s'attaquer à ceux qui vont être plus menaçants, qui vont fabriquer des couteaux pour les agresser eux. Donc, je pense que vraiment, les gardiens de, j'ai toute mon estime et mon admiration pour les gens qui font ce métier parce que c'est un métier très difficile. Y compris les femmes matons, c'est vraiment très dur. Et je pense qu'ils ne sont pas aidés par leur direction, eux non plus. Donc, moi, ce que j'aimerais bien entendre, c'est que pense les, que fait le directeur.
Les gardiens de prison, ne t'inquiète pas, on va les avoir au 32-16. Frédéric Farah.
Est-ce qu'il y a d'autres arnaques en cours de ce type ou d'autres choses est-ce que dans ces prisons-là qui sont en cours, est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont menées ou est-ce qu'on est c'est juste la pointe de l'iceberg et il y a bien
d'autres choses. Là, ils sont pas partis de la prison, ils sont partis de l'arnaque en elle-même. J'imagine qu'ils ont remonté les portables. Tu disais tu bornes les portables et ils sont tombés sur le portable de détenus.
Mais en même temps, je me demande mais comment. Ils visent ces personnes, comment
Oui, mais d'accord, mais aujourd'hui, donc finalement, on te dit, on n'incarcère pas parce que la prison, c'est l'école de la délinquance.
Non, parce qu'il n'y a pas de place.
Oui, mais il y a,
pas de
y a ça aussi. Puis on te dit, pourquoi mettre des jeunes dans une prison où en fait, ils vont ressortir encore plus aguerris, où ils vont être pris en main par des caïds qui vont les mettre à leur service quand ils sortiront. Donc, on n'incarcère pas parce que c'est l'école de la délinquance. On n'incarcère pas parce que c'est l'école du djihadisme et du prosélytisme. Et on a vu ce qui s'était passé dans bon nombre de prisons aussi. Et quand on incarcère, finalement, tu apprends que les types, et c'est donc ce qu'ont dit les magistrats de Marseille, ils continuent leur trafic, ils continuent leur combine d'arnaque.
Est-ce que donc, tu voudrais nous dire qu'il y a un petit problème?
Bah oui, mais si tu veux, après,
mais ça, c'est le ministère
après
de la
faut
justice.
Pas s'étonner que les Français soient de plus en plus en colère et que derrière on dise mais vers quel pays va-t-on? Un pays fasciste, un pays de répression,
Monsieur
etc.
Monsieur Macron nous avait promis 15 000 places de plus, on en est à peine à 2 000. On a des ministres de la justice, on a évoqué Madame Belloubet. Je ne crois pas non plus que Monsieur Dupond-Moretti soit particulièrement dur avec les prisonniers. Donc là, il se durcit un peu.
Souvenez-vous, là, sa première visite dans une prison, il avait été applaudi par les détenus.
Je me demande si c'était pas à Fred d'ailleurs.
Et après, on se dit,
c'était ses clients.
Là, depuis quelques mois, Monsieur Dupond-Moretti se met un peu à avoir un discours un peu plus dur. Ben c'est normal. Il commence à entendre un peu ce que pense l'opinion publique. Donc à un moment donné, faut peut-être que ça redescende. Mais je pense qu'effectivement, on a un déni. Alors que vous avez rapport parlementaire sur rapport sénatorial et rapport parlementaire qui se succèdent pour dire à quel point ça ne va pas là, la gestion des prisons. Je ne sais pas. Sommes-nous gouvernés depuis Macron, Hollande, Sarkozy. Parce que Sarkozy, c'est la même tambouille.
Mais les institutions, et c'est banal à dire. C'est la crise à tous les étages. La prison, les profs, l'hôpital. Ça. Et le pays, il tient par quoi? Par ces institutions-là.
Normalement,
Et que si ces institutions...
Il brinque-balle.
Si ces institutions commencent à défaillir, ce qui est largement le cas depuis au moins 3 à 4 décennies, c'est évident.
Oui, mais c'est au-delà de la crise d'institutions, parce que aujourd'hui, regarde, souvent la France se fait condamner pour non-respect des droits de l'homme dans les prisons. La France se fait condamner parce que elle n'a pas suffisamment de places de prison. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ressent une culpabilité à faire en sorte que les prisons ressemblent à des prisons. C'est-à-dire que la prison, c'est pour protéger la société. Les gens qui se sont fait arnaquer, ils n'ont pas été protégés. Des gens qui, normalement, sont en prison, ne doivent pas avoir de téléphone portable, doivent respecter la discipline qui est imposée par les gardiens de prison. Il doit y avoir des fouilles. Aujourd'hui, quand tu fouilles, t'as des détenus et leurs familles qui portent plainte parce qu'ils ont été fouillés comme dans... Et dans des manières qui ne sont pas qui ne sont pas dignes de la Convention des droits de l'homme. Et je suis désolé, la prison, c'est tu rentres en tôle, tu dois plus rien faire de ce que tu fais normalement à l'extérieur quand t'es en tôle. Ça, c'est ce qui me paraît être logique, quoi.
C'est plus acceptable ça.
Pourquoi c'est plus acceptable?
Tu dis ça, tu vas passer pour un mec dur, un facho, etc.
Bien sûr, parce qu'on vit dans une société qui estime que désormais ce type de régime n'est plus acceptable parce que prisonnier ou pas prisonnier, il doit bénéficier de droits, de meilleures conditions, etc.
Mais de l'autre côté, t'as aussi des gens dans des prisons qui mangent en tête-à-tête avec des rats, qui vont au shot face à 7 personnes qui le regardent en train de chier.
On le sait, parce que c'est les détenus eux-mêmes qui ont filmé leurs conditions de détention. Je me souviens, la prison des Baumettes à Marseille.
Mais c'est précisément ça, c'est que tout ce qu'on leur accorde comme droit, c'est pour tenter de compenser l'insalubrité des locaux, la crasse des locaux. Moi, ce que j'aimerais, c'est des prisons qui soient propres, qui qui soit pas insalubre, mais où du coup le entre guillemets le confort de détention permette de leur interdire les jeux vidéo et je vais même vous dire la télé, parce que en fait tout ça on devrait pouvoir l'interdire aux détenus, mais aujourd'hui
télé,
c'est normal, c'est normal qu'on leur donne, parce que oui mais non, parce que tu pourrais les faire travailler. T'as des pays où le taux d'activité en prison est bien plus élevé que la France, où le taux d'études, avant on étudiait beaucoup plus en prison qu'aujourd'hui. Moi je suis désolée, le temps de détention ça devrait être un temps. Oui, pour passer le CAPES de prof de maths. Mais non, mais sans rigoler, les détenus devraient plus avoir accès au travail, plus avoir accès à la formation, à la reprise d'études, au lieu de les laisser enfermés toute la journée à regarder la télé, à jouer aux jeux vidéo.
Et bien justement,
ça,
on va continuer pour cacher
l'insalubrité aussi de notre système pénitentiaire.
De ces conditions de détention des
détenus. Les faire taire à coups d'anxiolytiques.
Qui menaient leur petit business d'arnaque depuis leur prison. Avec leur téléphone portable, je sais qu'il y a des gardiens de prison qui sont en train d'appeler au 3216 ou d'anciens détenus. À tout de suite pour écouter leur témoignage avec vous, bien sûr. 3216.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.